Non, j'aime bien les journalistes. Mais je déteste les questions.
Barbara, en noir et blanc.
Pas du tout, je ne vous injurie pas. Je réponds la vérité, je fais mon métier, c'est tout.
Une émission de Francis Legault.
Présentée par Anne Dorval.
Si je n'avais pas chanté, j'aurais peut-être été prostituée. D'ailleurs, chanter, faire de la scène, c'est un peu la même chose.
Barbara en noir et blanc, diffusée sur les ondes des radios francophones publiques.
Tu me paralyses en me disant ça parce que je me souviens plus de ce que j'ai fait. Enfin, ça fait rien.
France Inter. Novembre 1981. Barbara fait taire les rumeurs qui la disent malade, retirée, disparue. Ses origines de saltimbanque refont surface. Pour son nouveau récital, elle fait créer un lieu à sa démesure, un chapiteau planté à l'hippodrome de Pantin. Pendant près d'un mois, elle chante tous les soirs devant plus de 2000 personnes. Un public électrisé, composé de fans de toutes les générations. À Pantin, c'est le sacre d'une diva. Au micro de Franck Musy sur la RTS.
Moi, ce qui était l'origine de Pantin, bon, c'est que je voulais faire un autre endroit. Et on l'a préparé, c'était comme un immense vaisseau. Et c'était un bonheur fou, quoi. C'était un grand bonheur, Pantin.
Il y avait dans les spectacles de Barbara d'antan un petit côté sacré. Est-ce qu'à travers Pantin, ce côté sacré est resté?
Écoute-moi, ce mot sacré, je l'ai toujours fui comme la peste, mais puisque tu me le dis, bon, d'accord, mais il est resté sacré, il est resté amour plutôt, il est amour. Hein, je ne sais pas s'il était sacré, mais ce qu'il est, c'est sûr, c'est qu'il est resté amour plus que jamais et joyeux. Sacré, je ne vois pas bien sacré.
Devant les idées de grandeur de Barbara, l'agent Charlie Marouani ne s'affole pas.
Son rêve, c'était de faire une tournée de chapiteaux. Elle avait envie d'aller dans les cirques. Elle dit, moi, mon rêve, c'est d'aller vers... On a installé un chapiteau à Pantin. Il n'était pas de premier ordre, si j'ose dire. C'était des vrais chapiteaux de cirque, mais de petits cirques. Moi, quand un artiste me dit, je veux faire ça, c'est qu'il a envie de le faire. Il ne faut pas le décourager à faire ce qu'il a envie de faire. C'est important. Et des gens comme Barbara, vous allez lui dire de ne pas faire ça. Mais c'est pas honnête, c'est pas bien. Parce que c'est son rêve, elle a envie de le faire. Il faut la pousser, il faut l'aider à le faire. Il faut l'aider à réaliser son rêve.
La costumière, Mine Vergès.
Charlie Marouani, que vous avez vu ce matin, me dit, écoute, la veille de Pantin, je veux qu'elle dorme chez toi. Tu la surveilles, je ne veux pas qu'elle aille à Pantin. C'est toi qui la gardes. Ok. Et tout d'un coup, 3 heures du mat, elle me dit, bon, je ne peux pas dormir, je m'en vais à Pantin. Ah, j'ai dit non, 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 Charlie m'a dit, Charlie, mais qui commande, c'est pas Charlie, c'est moi. Bon, elle s'énerve, on va à Pantin. Ah, j'ai dit, bon, je viens à Pantin. On appelle un taxi, on monte à le taxi, elle dit, je veux des croissants au taxi. Il a fallu trouver une boulangerie pour acheter des croissants. On est arrivé à Pantin avec des corbeille de croissants pour donner justement à Jacques Rouvérolis, à tous les machinistes, tous les gens qui travaillaient, qui étaient en train de monter le chapiteau. Elle n'a pas dormi. La nuit d'après, elle est restée à Pantin, pas dormie. Et le lendemain, elle chantait.
Regarde, quelque chose a changé. L'air semble plus léger. C'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé, c'est indéfinissable. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux. Le cœur en amoureux. Regarde ces fanfares et musique, tintamarre et magique, féerie, féerique. Regarde, moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent danser, leur vie recommencer. Regarde, on pourrait encore y croire, il suffit de le vouloir avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, on en a tellement rêvé que sur les murs bétonnés poussent des fleurs de papier.
Le chanteur Yves Duteil.
Dans le début du spectacle, j'étais un peu mal à l'aise parce que je trouvais qu'elle en faisait beaucoup. je trouvais qu'elle en rajoutait un peu, elle faisait du Barbara, et je me disais, deux heures comme ça, ça va être peut-être un petit peu difficile, on va peut-être à un moment décrocher. Et c'est passé exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, on était tous debout sur les chaises à la fin et à faire trois quarts d'heure de rappel pour qu'elle revienne et qu'elle continue, quoi, parce qu'on était complètement envoûtés par cette émotion qu'elle projetait autour d'elle. Elle a eu une idée incroyable qui a été d'une force. Elle écrivait avec le bras, avec la main, dans le vide, une phrase qui s'écrivait au laser sur le fond de la scène au fur et à mesure. Et cette phrase, c'était « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ».
Ce qui était fantastique, c'est que Pantin, c'était vraiment l'hiver, c'était novembre. Et ils ont fait de ce Pantin des chants de coquelicots, de mimosas, et ça, c'est ça que j'ai écrit dans la chanson Pantin, et c'est ça qu'ils ont fait vraiment. Ils ont vraiment fait ça. C'était vraiment beau. C'était beau dehors, c'était beau dedans. Je parle pas de moi, je parle... Parce que le spectacle était fait par le public. C'était une fête perpétuelle. Ah, oui, c'était très beau.
L'accordéoniste de Barbara, Roland Romanelli.
C'est là où, elle, malheureusement, elle a commencé à être malade, vraiment. Et je raconte toujours que la plus belle soirée que j'ai passée, moi, en spectacle avec Barbara, c'est le jour où elle était très malade. Juste avant le spectacle, elle était complètement aphone, mais vraiment aphone. Et d'habitude, elle se faisait faire une piqûre et... Pendant 2 heures ou 3 heures, vous avez votre voix qui revient. Et cette fois-ci, ça n'a pas marché. Donc, elle pouvait vraiment pas chanter, parler comme ça. Donc, c'était l'horreur. Et voyant à 21h que la voix n'était pas revenue, donc elle a dit, il faut que j'annonce au public que j'annule. Donc, elle a pris le micro dans les coulisses et elle a annoncé l'annulation. Elle a dit, excusez-moi, mais je ne peux pas chanter, j'ai pas de voix. Et les gens ont réagi d'une façon surprenante. Ils ont dit, ben, on s'en fout, on partira pas. Elle avait même dit, on va vous rembourser. Et alors, le producteur était là, il dit, on dit jamais qu'on rembourse. On va remettre le spectacle, on va refaire une date, mais on dit jamais qu'on rembourse parce que sinon, c'est l'enfer. Voyant que les gens ne partaient pas, alors elle a dit, bon, ben, on va rentrer sur scène et on va leur prouver qu'on peut pas faire ce concert. Et avec son micro, elle dit, voyez, je ne peux pas chanter. Et les gens disent, on s'en fout, on partira pas. Je vais vous le prouver. Et donc, on attaque, toi. Et puis, rien ne se passe, parce qu'on l'entendait murmurer. Et les gens ont commencé à chanter. Et on a fait toute la chanson avec les gens. On s'est regardé, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc elle a enchaîné la seconde chanson et les gens ont chanté. Et pendant 2 heures, c'est les gens qui ont chanté, c'est pas Barbara. Et ça a été pour moi la plus belle soirée. Parce que ça, nous, on était là, on jouait, on pleurait, parce que c'était tellement émouvant. C'était miraculeux.
Dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler pour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, moi le sais-tu? Tout le temps qui passe ne s'attrape guère, que tout le temps perdu ne s'attrape
guère. Mille Vergès.
Ah, Pantin, ça a été extraordinaire. C'est les plus beaux spectacles qu'elle ait fait de sa vie. Vous savez que le jour de la dernière, Il y a eu 1h20 d'applaudissements. 1h20. Il n'y avait plus de lumière. Rouvéroli s'était parti. Il n'y avait plus rien. Les gens avaient le briquet dans la salle. Elle revenait donc en robe de chambre. C'est les gens qui chantaient. 1h20, les gens sont restés dans la salle. C'était magnifique.
Le neveu de Barbara, Bernard Cerf.
Alors la dernière de Pantin, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, moi je me souviens, pour vous donner une anecdote, à un moment, j'ai voulu aller dans les loges. Et il y avait des gens qui s'agrippaient au rideau, mais c'était comme pour les Beatles ou les Rolling Stones. Et à un moment, j'ai appelé quelqu'un qui était dans le staff de Barbara. Et j'ai dit, dites à cette personne de venir, je suis le neveu de Barbara. Et là, il y a 5 ou 6 personnes qui ont regardé. Mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Il dit ça pour passer, c'est à nous de passer. Et cette personne est venue, et effectivement, elle m'a vu et je suis rentré. Mais j'ai eu le sentiment à ce moment-là que j'allais me faire écharper.
Barbara, avec Jacques Chancel.
À Pantin, bon, vous donniez un tour de chant. Ouais. Mais à la sortie, lorsque j'allais vous voir dans votre roulotte, j'étais quand même frappé par ceux qui venaient vous rendre visite. Car ils auraient pu vous dire, comme on le dit à d'autres, on a aimé, on n'a pas aimé. Ils venaient vous prendre la main, vous raconter leur vie, vous dire leur malheur ou leur bonheur. Et je me disais, mais mince, mais c'est un prophète, cette femme. C'est quelqu'un de différent, Barbara. D'ailleurs, vous étiez dans une roulotte.
Non, ce que vous dites là, je pense que chacun de nous qui sort de scène, a après une espèce de dialogue avec les gens, parce que c'est important, ils ont écouté ce qu'on leur racontait, enfin, pour ma part, pendant 1h30. Ils ont envie de dire aussi, eux aussi. Alors, c'est pas possible d'écouter toute la nuit, malheureusement, parce que c'est pas possible. Mais c'est pas possible non plus de partir en disant, écoutez, vous, ça m'intéresse pas du tout.
Oui, mais vous passiez de longs moments avec eux.
Vous savez, quelquefois chanter, je me dis ça, c'est un peu comme une assistante sociale qui s'exprimerait et puis qui après ouvre les portes, parce que ça ouvre, parce qu'une chanson, ça concerne tout le monde. Qu'est-ce que retrouvent les gens dans la chanson? Leur quotidien. Moi aussi, j'ai perdu un père à Nantes. Moi aussi, j'ai perdu un amant.
C'est ce que j'ai entendu.
Moi, ça m'est nécessaire d'être le plus possible. Ça ne veut pas dire que je sois positive, je ne fais rien du tout. D'être à l'écoute des autres, ça, c'est très important. Il est impossible d'écrire et de monter sur une scène, de faire ce métier, d'être comédien, d'être acteur, d'être peintre, d'être écrivain, de ce que vous voulez, et d'être ce que vous êtes, sans être à l'écoute totalement, à l'écoute des autres. Bien sûr qu'on n'écoute pas assez, bien sûr qu'on donne pas assez, bien sûr qu'on passe dans les vides et qu'on s'en va. Moi, j'ai vu des gosses qui disaient ça, et c'est vrai, vous passez, vous chantez, vous remontez dans vos voitures. C'est vrai. Mais c'est où rester et ne pas pouvoir chanter le lendemain, ou partir et recommencer la route.
France Inter. Malgré les grandes messes de Pantin, Mogador et Châtelet, Barbara reste fidèle à sa loi. Elle ne poursuit pas une carrière, elle est simplement une femme qui chante. Sa manière de travailler, d'écrire, d'aborder la scène, de narguer l'industrie est singulière, mais c'est la sienne. Dans ce milieu d'hommes, Barbara ne plie jamais les chines. Toujours, c'est elle devant et eux derrière.
Il marche le regard fier. Baissant, moi devant et eux derrière, mes hommes. Et si j'allonge le pas, ils me suivent pas à pas. Je ne leur échappe pas, mes hommes, où que je sois, ils sont là, mes hommes. Je n'ai qu'à tendre les bras, en somme. Je les regarde venir, fier de leur appartenir. C'est bon de les voir sourire, mes hommes. Moi qui suis fille des brumes, en somme, de la nuit et de la lune, tout comme eux. Quand j'arrive le teint clair, moi devant et eux derrière, je comprends bien que les gens s'étonnent, car ils viennent de Tunisie, mes hommes, Marseille, Toulon, le midi, mes hommes. Ils marchent avec insolence, un petit rien dans la hanche. Ça ressemble à une danse, mes hommes. Ils ne m'appellent pas madame, mes hommes. Et tendrement, ils me nomment patronne. Ils se soumettent à ma loi, je me soumets à leur loi. Que c'est doux d'obéir à mes hommes. Tout d'amour et de tendresse, mes hommes. M'ont fait une forteresse, mes hommes. Non, vous ne passerez pas, ils sont violents quelquefois. C'est à eux, n'y touchez pas, mes hommes, ils se sont fait sentinelles, mes hommes. Ils pourraient être cruels, mes hommes. Ils me veillent comme moi, je les veille quelquefois. Moi pour eux, pour moi, mes hommes. Quand naissent les premières feuilles d'automne, quand le chagrin se fait lourd, mes hommes vont se mettre sans un mot debout autour du piano et me disent tendrement: patronne, patronne, c'est fou comme ils sont heureux, mes hommes. Quand le son du piano noir résonne, ils vont faire leurs bagages et on reprend le voyage. Faut qu'ils voient du paysage, mes hommes. Quand descend la nuit furtive, mes hommes, à pas de loup, ils s'esquivent, personne. Ils vont chasser dans la nuit, bergers, gardez vos brebis, qui ont le goût et l'envie, les hommes, les hommes. De la blonde à la rousse, mes hommes. Ils vont coucher leur peau douce, mes hommes. Et repartent dans la nuit, courtois mais pas attendris. Quand ils ont croqué le fruit, la pomme, ils reviennent au matin, mes hommes. Avec des fleurs dans les mains, mes hommes. Et reste là silencieux, timide, baissant les yeux, en attendant que je leur pardonne. Ils ont installé mon lit, mes hommes, à l'ombre d'une prairie, mes hommes. Je peux m'endormir à l'ombre, ils y creuseront ma tombe pour la longue nuit profonde. Et des hommes, et des hommes. Pas de fleurs, pas une larme, mes hommes. Je n'ai pas le goût du drame, mes hommes. Continuez le regard fier, je serai là comme hier, vous devant et moi derrière, mes hommes.
Barbara à l'émission Opus avec François Delétraz.
Barbara, combien de maisons de disques vous avez faites?
Alors j'ai fait je pense quatre. Alors la première, qui était une grande maison de disques, j'avais des exigences, les mêmes que j'ai maintenant, c'est-à-dire qu'on me disait, vous allez faire ça. Pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout, je vais faire toute seule au piano. Non, il faudrait, voyez, vous... non, je ne veux pas. Alors, comme c'est vrai que j'étais désobéissante, j'ai toujours été désobéissante. Et donc, un jour, le directeur m'a fait venir. Et c'était donc mon deuxième disque, vous allez faire ça. Non, 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 pas du tout. Hein. Est-ce que vous savez combien vous avez vendu de disques? Non, non, pas du tout. Ben, vous en avez vendu quatre. Évidemment, ça s'est arrêté là, parce que, ben, bien sûr, quatre disques, j'avais vendu. C'était extraordinaire.
C'était quoi ce disque?
C'était le disque Les Boutons Dorés. Quatre disques. Ça ne m'a pas vraiment atteint, d'ailleurs, cette histoire. J'en suis restée, je n'ai pas cédé à ce qu'on me demandait. Parce qu'il faut faire ses erreurs soi-même, il ne faut pas qu'on vous pousse. Je veux bien suicider, mais je ne veux pas qu'on me pousse.
Un, deux, trois, quatre!
Pascal Auriard. Aaron Rosande. Et Barbara
sur France Inter.
Barbara, hier, je passais dans un studio à Paris et j'ai découvert brusquement une dame assise sur un canapé, les mains sur les genoux, jointes, ratatinées, et regardant les dos de trois hommes qui étaient un pupitre de studio. Vous veniez d'enregistrer les chansons que vous allez nous présenter tout à l'heure. J'ai été très surpris de la solitude dans laquelle vous enregistriez. Est-ce que c'est votre habitude?
Oui, oui. Toujours. Absolument, toujours.
Pourquoi? Vous vous sentez mieux seule dans un studio?
Parce que je veux faire mes erreurs toute seule, oui. Et que si on amène des gens qui sont là, qui viennent et qui oh non, j'aimerais mieux ça, etc. Je veux dire que je vais être responsable de ça. Et en plus, ça peut déranger et l'orchestrateur qui est Jean Musy, hein, et le technicien, etc. Je pense que ça peut les déranger d'avoir des gens autour d'eux. À ce moment-là, on fait un travail ensemble, personne ne doit franchir les portes du studio. Et de plus, quand quelqu'un vient en studio, il apporte une énergie qui n'est pas forcément contraire, mais qui est différente à ce qui se passe là. Et après, quelquefois, il dit « je viens juste deux minutes en passant, sans dire bonjour », qui est extrêmement gentil, et il repart avec l'énergie du studio. Il n'en est pas question.
C'est ce que j'ai fait hier, moi. Je suis venu pour deux minutes, et je me
non,
suis...
Non, mais vous étiez dans la maison, et c'est complètement différent, j'entends...
Et je me suis senti brusquement étranger à l'équipe.
Mais c'est vrai. Mmh. Quand on arrive, on n'est pas, d'abord, on n'est pas forcément intéressé par ce qui se passe, alors que là, on est en, nous, on est comme ça depuis le matin, enfermés. Et je crois que c'est comme ça.
J'ai eu l'impression de rentrer dans une église.
C'est ravi de vous voir.
Qui célébrait un culte auquel je ne comprenais rien, auquel je n'étais pas encore initié.
La création d'une chanson, Roland Romanelli.
C'est vrai qu'avec Barbara, c'est très compliqué à expliquer parce que quand on travaille une chanson, ça peut durer des mois. Parce qu'elle fait, défait, refait, redéfait, tant qu'elle n'est pas complètement satisfaite. Elle ne parle en musique qu'en images et en couleurs. Là, faut que tu vois le climat, c'est une tu vois la mer avec une brume, avec violette, avec des petites gouttes qui tombent comme ça. Donc vous êtes dans cette image là et faut que vous transcriviez ce qu'elle dit musicalement.
Je voulais faire une chose qui est absolument sans texte. Enfin, il y a un texte, mais j'arrive pas à écrire. Bon. Et que je voudrais, bon, disons que c'est Paris, c'est un matin de novembre, c'est un matin qui n'est pas encore froid, novembre, c'est encore ensoleillé, mais c'est quand même frileux. Et c'est un matin de novembre avec un temps de mars, en fait. Tu vois, je suis bon de mars où il pleut. Il y a un petit soleil comme ça, une petite pluie. Et c'est dans Paris, c'est une marche très lente, une traversée de Paris. C'est noir, hein. c'est comme une longue, une file, une grappe comme ça, qui, tu vois. Lourde de gens ou pas de gens, en fait, tu vois, bon, et ça s'écoule comme ça très lentement. Enfin, c'est sombre hein, quand même, ça, tu vois. Et je voyais une chose qui se ferait comme ça. Tu vois, à la fois comme une, je sais pas, enfin, comme une espèce de lente prière.
Des nuits échevelées, Marie Chex.
Quand elle était dans une période de création, elle était chez elle. Étant insomniaque, elle passait souvent la nuit sans dormir. Bon, comme j'habitais pas loin à ce moment-là, j'avais un coup de téléphone dans la nuit. Elle me disait, Marie, il faut que tu viennes faire le mur. Alors, faire le mur, pour elle, ça voulait dire s'asseoir en face d'elle, elle au piano, ou debout, ou assis, comme on voulait, et l'écouter, et l'écouter, et l'écouter. Et lui dire ce qu'on en pensait. Alors, ce qui se passait, c'est que vous arriviez, il y avait des ribambelles de feuilles de papier couvertes, de lignes raturées. Il y en avait partout sur le piano, il y en avait partout. Et elle reprenait, et elle jouait, elle rejouait. Là, elle avait la musique. Hein, et elle butait sur un mot. Oui, c'est vrai, elle butait des fois sur un mot. Et... Mais enfin, toi, tu peux pas me trouver ce mot-là. Et on me disait, bon, alors on disait quelque chose. Ou on disait, de toute façon, quoi qu'on dise, on se faisait toujours engueuler. C'était comme ça. Mais on était là pour ça. Je veux dire que c'était un processus. Ça l'aidait à arriver à ce qu'elle voulait. Hein. C'est comme ça qu'il y a des gens, je ne les nommerai pas, qui ont pu croire écrire ces chansons. Il y en a eu quelques-uns qui ont comme ça dit. Parce que je vois très bien, moi, on était à côté, alors on pouvait très bien dire, oh bah oui, moi je l'ai écrite avec elle, ce qui est faux.
Allez savoir pourquoi au piano ce jour-là, il y avait une musique sur le bout de mes doigts, une musique. Allez savoir pourquoi les pianos jouent parfois de drôles de musique sur le bout de nos doigts. Allez savoir pourquoi dans le salon vieillot où j'aimais travailler, tout en regardant vivre mes objets familiers, je jouais, jouais, pendant que sur mon mur dansait la Loeffler, sous l'œil énamouré et l'air patibulaire de Fraxel, Fraxel. Allez savoir pourquoi il existe des nuits où sous un ciel de soie des papillons de nuit volent multicolores. Allez savoir pourquoi, mais c'était une nuit où seul à mon piano j'étais au paradis. Quand tout d'un coup venue de ta planète, le téléphone sonne sur mon île déserte et c'était toi. Oh toi. Allô, allô, mon cœur me murmurait ta voix. Je n'étais pas ton cœur et c'était une erreur. Mais je n'ai pas raccroché et tu n'as pas raccroché. Et si je n'ai jamais su qui tu recherchais, j'ai tout de même compris que l'on s'était trouvé. Et depuis ce jour-là où tu l'as découverte, tu es le Robinson de mon île déserte. Tu es le Robinson. Le Robinson de mon île. l'aime. Parce qu'un jour un piano allait savoir pourquoi jouait une musique sur le bout de mes doigts. Une musique. Parce qu'un jour un piano. Un piano.
En interview avec Jacques Chancel.
Vous êtes une professionnelle redoutable.
On dit ça, redoutable.
Mauvais caractère, un peu. Dans le travail, je parle. Non, l'exigence.
Est-ce que c'est, vous oui. qui savez ça, est-ce que ça être mauvais caractère que d'avoir une très grande exigence,
non,
de vouloir
tout.
Mettre son piano
non.
soi-même et de hurler si on.
Hein?
Si... Bon, c'est tout. J'ai peur et j'ai une grande exigence de moi, donc une grande exigence des autres.
L'accordéoniste Sergio Tomassi sur France Inter.
Cette générosité, etc., c'était aussi celle qui sanctionnait aussi. C'est-à-dire qu'elle pouvait être, mais insupportable. Insupportable tellement elle vous poussait à bout. Et quand je vous dis qu'elle vous poussait à bout, c'est dans le bon sens du terme. Elle voulait être sûre que vous lui donniez tout, toute l'énergie que vous aviez. Si jamais elle pouvait penser un seul instant qu'en étant avec elle, vous passiez à quelqu'un d'autre. Oh là 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 là. C'était pire que de la jalousie. Là. C'était, mais là, vous étiez mort dans la seconde. Voilà, avec un simple regard. Hein. C'est pour ça que lorsqu'elle entrait en scène, bon là, il n'y a pas l'image, mais je vais vous faire. Elle nous montrait comme une fourche, là, ses deux doigts, et elle nous regardait, elle allait dire, vous me regardez, c'est moi. C'est moi sur scène, d'accord? C'est moi, là. Si vous êtes... il fallait être canalisé, aucune fréquence que la sienne. Que la sienne, et il fallait la bloquer, la fréquence, il fallait la verrouiller. Alors ça, j'ose le dire, c'est la vérité. Si vous étiez marié et que vous étiez en tournée, la première femme, c'était Barbara. Hein. C'était elle qui passait d'abord, hein. Alors qu'elle défendait le fait que vous étiez marié. Alors comment va un tel? Comment va, la famille, etc. Mais c'était elle d'abord, qu'on le voyait ou non. Dans le sens où il fallait, quand on était sur scène et qu'on répétait, il n'y avait rien d'autre.
Roland Romanelli.
Ses grosses colères, c'est quand elle n'obtient pas ce qu'elle désire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est sûre d'avoir raison, elle va tout faire. C'est monstrueux. Sa colère, c'est violent. Hein. C'est violent parce que en deux mots, elle vous assassine. C'est même pas des colères. Elle tape pas contre les murs. Elle tape pas. Non, c'est pas ça. C'est tout se passe dans son regard. C'est un regard qui tue d'abord. Et ce sont ses mots. Elle vous descend en deux phrases, quoi. Moi, j'ai vu des colères avec des gens, les pauvres, qui ne méritaient pas, parce qu'elle les a fait devenir fous. Et quand je dis ça, c'est vrai, elle rend les gens fous, parce que les gens sont complètement désarmés. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois que la violence est passée, c'est le plus grand charme, et la plus grande douceur, et la plus grande tendresse qui existe. Elle est complètement... Voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre.
Sergio Tomassi.
Quand elle sortait de scène, elle poussait des hurlements, parce qu'il y a une lumière qui n'était pas mise à sa place, et la voyait pas assez, parce qu'ils n'ont pas envoyé le contre au bon moment, parce qu'elle voyait tout. Elle rentrait sur scène, et d'un seul coup, il y avait ses yeux qui regardaient toutes les lumières et tout. Si jamais il manquait la moindre petite virgule de lumière qu'elle avait voulu au bon moment qu'elle avait répété la veille, mais le pauvre, il passait dans un... Puis vous savez, bon, il y a les intercoms, donc le régisseur était en sortie, elle hurlait tellement en sortant, que le régisseur lui fait « Bon, bah, vous avez entendu. » Il n'avait même pas besoin de répéter. Il dit « Ouais, ça a même saturé. » Voilà.
Si les colères de Barbara avaient de quoi faire peur, en revanche, sa manière de les raconter était hilarante. À l'émission Feu vert avec Pierre Paquette sur Radio-Canada.
Bah, je crois qu'il y a tous les ans une colère, c'est régulier, dès que j'arrive à la répondre. Alors la première, c'était... Non, le premier piano ou le second piano, je crois, je ne sais pas. Il était d'ailleurs, ma foi, assez beau, il me semble, il était noir. Alors il jouait pas du tout. Il n'y avait pas de son. Il était beau, alors on dit, mais enfin il y a un piano noir, alors bon, oui, mais enfin il joue pas, alors bon. Alors, enfin je sais que ce piano a été changé par Yves Blais trois fois, en toute bonne foi, parce qu'il a été vraiment fantastique.
Mais il y a une poésie dans un piano qui joue faux, non?
Oui, mais alors pour le public c'est embêtant, oui, cette poésie. Vous irez expliquer ça au public. Vous irez chanter avec, alors. Alors c'est très difficile, et alors je crois qu'il a changé trois fois ce piano, et en toute bonne foi. Alors le lendemain, j'ai vu, il y avait un piano qui était effectivement d'apparence assez beau, noir aussi. Et alors il était pire que le premier. Alors là, j'ai eu une grande colère, et j'étais aussi très bonne foi. J'étais très bonne foi, parce que quand j'ai des colères, c'est pas pour moi, c'est aussi pour le public. C'est-à-dire que si je chante sur un piano dont il sort pas un son, c'est quand même assez difficile pour moi de chanter. Il y a eu aussi l'histoire du tabouret. Vous savez que je m'accompagne au piano... Et que donc, je m'assois sur un tabouret, ce qui me paraît assez normal. Enfin. Et alors, quand j'arrive, mais n'importe où, je veux dire, en France, par exemple, en tournée, j'arrive et il m'est arrivé les premières années, Je disais, mais alors il n'y a pas de tabouret. Ah ben, c'est pas sur le contrat. Je dis, mais oui, mais enfin, s'il y a un piano, il faut que je m'assoie sur quelque chose. Ah ben, nous n'avons pas de tabouret. Ah bon. Alors une fois, j'ai joué avec une chaise et des bottins. La stupéfaction du public, qui j'ai dit que je n'allais pas les lire, c'est pour m'asseoir. Alors petit à petit, je suis arrivée, il y avait des tabourets un peu partout. Mais alors, ils ne se tournaient pas. Vous savez que comme je suis en scène de profil à cause de mon admirable physique, je suis obligée de faire comme ça. Et si on me donne un tabouret qui ne bouge pas, je ne peux pas me tourner. Alors il a fallu que j'explique tout ça. Alors je disais aux messieurs directeurs, je leur dis, mais enfin, vous quand vous faites vos comptes, vous avez un stylo avec de l'encre. Ah oui madame. Ben, moi quand il me faut un piano qui marche. Alors si vous leur parlez, ah oui c'est vrai, ah, c'est vrai. Alors finalement j'ai commencé à avoir des tabourets mais qui n'étaient pas bons. Alors j'ai emmené un tabouret à moi, qui est tout à fait banal d'ailleurs.
Vous vous promenez avec votre tabouret?
Je me promène depuis 15 ans avec mon tabouret, sauf à Montréal. Parce que évidemment j'étais venue je crois la première fois sans mon tabouret, quelque chose comme ça. Alors je dis, il me faut un tabouret, et je vais vous faire rire, mais je vous dis que ce tabouret fait 61 cm de haut, et pas plus, c'est comme ça, il fait 61 cm.
C'est vrai,
alors nous, on n'a pas de tabouret, mais on dit, Percival, il veut l'être. Bon, alors on a commencé à chercher partout. Alors il y avait des tabourets de bar, mais effectivement, c'était trop haut. C'était trop haut par rapport au clavier. Parce que les pianos n'ont jamais la même hauteur, en plus.
On peut placer les bottins sur le piano, à ce moment-là.
Non, pas du tout. Alors je dis, il est trop haut, il faut le couper. Alors on m'a dit, ah bon, c'était juste avant que je rentre en scène, en plus, on s'était, je sais pas ce qu'il y avait. Comme ça. Alors j'étais là dans ma grande robe noire, tu vois. Alors il y avait des gens qui étaient sous le piano, très gentils. Très très gentil, tout le monde était sous le piano, à essayer de scier les pieds du tabouret. Alors moi j'étais, parce que là je vous raconte en rien, mais enfin j'étais furieuse, je me dis que c'est invraisemblable et tout ça, enfin je ruminais tout seul dans un coin. Et tout le monde était affolé parce que je sais pas pourquoi, mais je fais très peur dans ces cas-là. Ah bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Je reprends l'avion, parce que je reprends l'avion à 10h30. Il n'y a pas d'avion d'abord. Alors bon, alors finalement j'ai vu arriver une scie, un monsieur qui avait une scie dans le mur, je sais pas si c'est. Il a scié les pieds, alors j'ai dit, ah ben c'est parfait, je me suis assise, il avait scié trop, le tabouret était trop. Alors j'ai dit, vous le faites exprès, c'est pas possible, c'est le numéro de Grog. Alors, on a recollé, vous n'allez pas me croire, mais on a recollé des petits bouts, autant j'en ai souvenir, des petits bouts de bois, oui, sous les pieds du tabouret, on a remis des petites choses comme ça, très tout ça. Et finalement, le tabouret était trop haut, parce qu'on avait remis les trucs trop bas.
Une rengaine, un refrain, quelques notes au matin, tout petit zinzin, charmant petit zinzin de rien. C'est peu, c'est bien. Une rengaine à midi, comme on chante à Paris. Je t'aime pour la vie, tu sais, je me méfie. C'est long la vie. Une rengaine d'été, un 14 juillet, que l'on aime chanter encore et rechanter, et qu'on oublie, oui, et qui vous revient soudain, juste au petit matin. Tiens, les tous ceux-là qui s'aiment depuis le fond des temps, ils se sont dit, je t'aime depuis le fond des temps. Ils ont oublié même le coup de leurs 20 ans. Pourtant ils se souviennent de cette terre à 3 temps. De ce tout petit zinzin, sacré petit zinzin, drôle de petit zinzin, charmant petit zinzin, de rien du tout. De ce zinzin si joli comme on chante à Paris, je t'aime pour la vie, faut se méfier, tu sais, c'est long la vie. De cette chanson d'été de 14 juillet que l'on aime chanter encore et rechanter, et qu'on oublie, oui, et qui vous revient soudain, zinzinant le zinzin, sacré petit zinzin, drôle de petit zinzin. Tiens, une rengaine, un refrain, quelques notes au matin, tout petit zinzin, charmant petit zinzin de rire, c'est peu, c'est bien. Une rengaine à midi, comme on chante à Paris, je t'aime pour la vie, faut se méfier, c'est long, chérie la vie. Une rengaine d'été, un 14 juillet, que l'on aime chanter encore et rechanter, et qu'on oublie, oui. Un charmant petit zinzin, drôle de petit zinzin, qui fait d'un ciel tout gris un ciel bleu au matin. C'est bien. Un charmant petit zinzin, drôle de petit zinzin, qui fait d'un ciel tout gris un ciel bleu au matin. Un charmant petit zinzin, un drôle de petit zinzin, un sacré petit zinzin. C'est bien, c'est bien, c'est bien.
Avec Barbara, une salle de spectacle prend des allures de temple sacré. Sergio Tomassi.
Quand elle allait dans un lieu, c'était son lieu. Voilà. Les gens venaient la voir chez elle. Donc jusqu'au directeur de la salle était interdit de salle. Personne pouvait rentrer dans le lieu où elle venait très tôt le matin, avant les camions, avant sa technique. Dès que les portes du théâtre étaient ouvertes, elle rentrait dans la salle et elle magnétisait le lieu. Elle était chez elle. Elle vous recevait chez elle.
Mine Vergès.
Je vais vous raconter une histoire un jour quand elle faisait le Châtelet. Elle arrivait, donc elle chantait le soir, 8h30. Elle arrivait à 9h du matin, tous les jours, au Châtelet. 9h pour chanter à 8h30 le soir. Et un jour, elle est arrivée à 9h30. Et il y a le gardien du châtelet qui lui dit « Oh, Madame Barbara, vous allez être en retard ce soir. »
Guy Bedos.
Il y avait tout un rituel dans son installation, encore une fois sur scène. Il fallait pas les traîner sur le plateau au moment où il y était, quoi. C'était un animal. L'arpentait le plateau avant comme un chat, comme un animal. Elle reniflait vraiment le lieu. Elle avait quelque chose de sacré. Elle portait du sacré en elle.
Sergio Tomassi.
Je vais vous raconter une anecdote, vous n'allez pas me croire, mais bon, moi-même, moi, quand je la raconte, je touche du bois, attends, parle-moi là. On est dans un théâtre, je ne sais plus où par contre, au noir. On n'avait pas encore pris nos instruments, puis elle était là, non, 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 parce qu'elle voulait positionner son piano de telle sorte à ce que n'importe qui puisse la voir, même les places en aveugle, il voit absolument que tout le monde voit. Et d'un seul coup, elle s'arrête et puis elle fait « Il y a quelqu'un dans la salle ». Elle se lève et elle va voir le régisseur « Allumez la salle, il y a quelqu'un dans la salle ». Je t'ai dit d'allumer la salle, je te dis qu'il y a quelqu'un dans la salle. D'un seul coup, bon, on allume la salle et il y avait deux filles qui étaient dans le poulailler. Parce que le poulailler, c'est loin, hein, il faut des jumelles pour voir. Hein. T'es myope, elle voyait rien, donc forcément, elle les a senties. Elle a senti. Donc quand on dit avec Daguerre, on s'est tous regardés, je dis, c'est pas possible. Nous, ça faisait un quart d'heure qu'on était là, on était même passé dans la salle, on n'avait rien vu.
C'est vrai que c'était une sorcière.
Oui, magie blanche, attention. Magie blanche, hein, j'ai bien dit. Hein.
Je suis la très mystérieuse. Je suis l'amante religieuse. Ni belle ni bonne, je n'aime personne. Et je passe bonjour. Il s'en est fallu d'un rien. J'étais blonde au nez mutin. Chacun la gueule qu'il a, moi j'ai la mienne, et voilà.
Le rituel avant un récital, Marie Schex.
C'est vrai, vous avez raison d'en parler, parce que le maquillage était très important. Hein, c'était, mais le maquillage, elle pouvait le commencer justement à 1h de l'après-midi, et puis l'enlever, et puis le remettre, et puis se refaire un œil, et puis se refaire l'autre œil. Et c'était, oui, elle l'arrêtait. Et c'était, je pense que c'était aussi pour se désangoisser. S'enlever le trac, le fait de se traiter comme un masque de théâtre japonais, elle se faisait sa tête. Alors là, bon, je me suis tout souvent demandé, mais alors quand elle se regardait, à quoi elle pensait, puisqu'elle se trouvait si moche? Et bien alors non, ben, là il y a un mystère aussi. C'était quelqu'un d'autre, je pense qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Elle voyait son double de théâtre. Et je pense que c'est ça qui la faisait vouloir rester dans les théâtres, c'est qu'elle voulait n'être que... sa plus belle image, quoi.
Habiller Barbara, un cauchemar. Mine Vergès.
Les derniers jours avant le spectacle, c'était cauchemar, parce que ça serrait trop, c'était trop grand, ça serrait, c'était trop long. Après, on a terminé, je faisais les pantalons et les élastiques à la taille et des bretelles. Comme ça, c'était ni trop grand, ni trop petit. Non, c'était très difficile. Mais c'est l'angoisse qu'elle avait, fatalement, se reportait aussi sur le costume.
Je connais pas l'état de prière, mais à partir de cette certaine heure, je deviens quelqu'un de différent. Il faut plus me toucher, il faut plus me parler. Je suis différemment réceptive aux choses, aux bruits. C'est difficile à exprimer, mais si on me touche, ma peau, je suis réceptive d'une manière différente aux choses. Il ne faut pas toucher ma robe de scène, il ne faut pas... Oui, oui, oui. Ça peut paraître comme une folie. Ça m'est égal, d'ailleurs, mais enfin, c'est comme ça. Je veux dire qu'il y a une espèce de côté, il faut préserver les choses. La robe de scène devient c'est une chose sacrée, c'est une chose qui n'est jamais touchée par d'autres mains. Que par les miennes, finalement, qui porte toute l'électricité, l'énergie, à la fois des gens de la scène, et que de ce fait, elle ne doit jamais être en contact avec l'extérieur. Ni même qu'un habit, ou jamais que le manteau qui vient d'un extérieur, c'est difficile, qu'elle devient de l'air extérieur, touche ça. Rien ne doit toucher ça. C'est une robe qui est pleine d'énergie, d'énergie à laquelle l'énergie du jour est contraire. C'est très étrange.
Quand elle a fait l'Olympia, elle avait grossi énormément. Mais énormément, énormément. Bon. Donc, on fait le pantalon, toujours, plus large. Et dessus, au lieu de faire une tunique, j'ai fait un truc très large. Mais elle avait grossi, mais elle avait toujours des jambes très, très longues et très, très fines. Donc, si vous voulez, on voyait les jambes longues et une grande tunique autour. Normalement, ils ne parlent pas des costumes, les critiques. C'est très rare, sauf Cartier, Chanel, ou bon, bref, ils ne parlent pas. Là, tous les critiques en ont parlé, mais en ont parlé en disant « Mais comment une femme si grande, si mince, peut être aussi mal habillée ?» Et Barbara, chaque fois, elle me téléphonait, elle hurlait de « Tu as vu, tu te fais engueuler, tu te fais engueuler !» Mais ils n'ont pas vu que j'avais grossi. Personne n'a vu qu'elle avait grossi. Elle avait pris 18 kilos. C'est énorme.
Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attiraient les clients. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit four. Et du soir au matin, dans son petit magasin, là là, elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle vendait ses petites brioches au lait. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur entra d'un petit coup d'œil oblique. Vite, il la remarqua. Pour parler à la belle, il choisit des bonbons. Donnez-moi, mademoiselle, un cornet de marron. Et d'un petit air malin, il en prit dedans sa main. Elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Je vous offre, dit-il, mon coco, les marrons et mon cœur chaud. Cœur chaud, dit-elle, vous l'avez, mais les marrons sont glacés. Il s'assit à une table pour manger un petit chou. Elle se montra aimable, elle offrit un peu de tout. Puis insista coquette pour qu'il prît du nougat. Mais lui, hochant la tête, tristement répliqua: à mon âge, voyez-vous, je prends plus que du caramel moumou. Elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Le vieux lui faisait les yeux blancs, il saussait en tremblotant. Dans un verre d'eau et d'orgeat, une petite langue de chat. Il y avait 3 heures passées qu'il était assis là. Elle pensait énervée, il ne partira pas. Ne sachant plus que faire pour le dévisser du sol, elle lui dit en colère: mange ses croquignoles. Il répond d'un ton sec: je n'aime pas les gâteaux secs. Ah non, elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Elle lui dit d'un petit air doux: ben mon cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux secs, mangez donc de la merde avec.
La scène, un lieu magique pour la diva. François de Letraz.
C'est équilibrant de se trouver face aux gens, sur scène.
Équilibrant ?
Ou c'est déroutant ?
Oui, je ne crois pas que ce soit équilibrant. D'abord, ça se passe comme ça, c'est-à-dire, il y a le moment où on attend, on ne sait pas en plus si les gens vont venir. Il y a le moment où on entre, qui est un moment tout à fait... du moment où tu mets le pied dans la lumière... Ah, ça c'est quelque chose. Et puis après, il y a le moment où tu peux oublier ça parce que tu es... C'est pour ça que je peux pas répondre à votre question, parce que je suis complètement repliée dans ma chanson. Je suis avec les gens qui sont dans la salle, et à la fois seule pour mieux aller. Donc, je ne peux pas penser équilibre ou pas équilibre. Je pense que déjà, pour faire cette chose-là, on n'est pas tout à fait équilibré, puisque c'est un exhibitionnisme dont j'ai bien conscience, hein, parce que de toute façon, dire, bon, écoutez, alors maintenant je vais chanter, vous êtes gentil, moi j'ai décidé de chanter, voilà, je vais mettre ma robe, mes lumières, soyez gentil, déjà c'est pas logique. Donc il y a là une fêlure, quelque chose. Donc bon, voilà.
L'animatrice, Hélène Azéra.
Ça n'a rien à voir avec Sarah Bernhardt, mais Sarah Bernhardt, ça devait être quelque chose comme ça. Le point de faiblesse des Français, c'est la peur du ridicule. S'il y avait une chose que Barbara n'avait pas, c'était la peur du ridicule. Elle se jetait comme ça, elle faisait des grands gestes, des grandes envolées. Elle était toujours à un millimètre du ridicule, mais c'était jamais ridicule. Alors c'est ahurissant que, quand tu avais le privilège de pouvoir aller la voir sur scène, de voir dans la loge le maquillage. Mais c'était un maquillage d'acteur d'opéra de Pékin. Tu vois, c'était vraiment 3-4 heures de maquillage. Et de très près, tu avais l'impression d'être devant une poupée de bois qu'on avait peinte. Mais sur scène, elle jouait énormément d'une certaine androgynie. C'est-à-dire, il y a des moments, et là on est près de Sarah Bernhardt, il y a des moments, elle était d'une féminité absolument éblouissante, mais il y a des moments, c'était comme Sarah Bernhardt travestie en aiglon, en fils de Napoléon. Elle pouvait avoir des moments très très masculins sur scène.
Juliette Gréco.
Finalement, avec ses airs, elle est d'une simplicité formidable, formidable. Il n'y a rien de faux, bizarrement, parce que tout ça est très, peut sembler très maniéré, quelquefois. Bon, mais ça, c'est comme ça, elle est comme ça, elle est capable de se coucher sur le piano, de faire des conneries, de se balancer dans un rocking chair. Voilà, elle ne fait pas ça pour être différente. Elle est différente.
Serge Lama.
Je pense que la théâtralité de Barbara était sincère. C'est-à-dire que la théâtralité de Barbara était digérée, elle était à l'intérieur d'elle, elle était devenue une sorte de princesse de théâtre, et cette princesse de théâtre ne disait que la vérité, c'est-à-dire qu'à travers cette apparence d'impératrice chinoise qu'elle avait par moment, elle disait que des choses qui sortaient de son cœur au moment où elle sortait avec une authenticité que j'ai rarement trouvée, à part Brel, chez d'autres interprètes. C'est rare de voir quelqu'un qui a une telle authenticité. Alors, dire le côté, je vois ce qu'ils veulent dire, le côté théâtral qu'elle peut avoir dans sa façon de se présenter sur scène. On dirait qu'elle sort d'un roman de Proust par moment et qu'elle arrive et qu'elle va de l'autre côté de la scène porter une tasse de thé à la princesse de Guermantes. Mais tout ça, c'est fait de l'intérieur avec une sorte de côté presque enfant à l'intérieur et de rêve porté. Non, je m'inscris en faux sur l'inauthenticité en tout cas. Et c'est ça qui compte. C'est pas qu'elle ait un côté théâtral, oui, elle en a un. Mais on en a tous un.
Hélène Azéra.
Et puis, bon, bah, j'ai vu les grandes messes. Tu sais, les gens commençaient à se lever à partir de la deuxième chanson. Les rappels commençaient à partir de la deuxième chanson. Tu passais ton spectacle debout avec Barbara. Et à un moment, vers la fin de ces spectacles, il y a un moment, elle se jetait entièrement en arrière sur son piano. Mais elle se jetait en arrière, elle se cassait entièrement en deux sur son piano, en se jetant en arrière. Et elle me dit, mais vous savez, ça, je ne peux le faire que sur scène. Je ne pourrais pas le faire dans la vie courante. Parce que, bon, c'était comme une espèce de transe. On n'est pas si loin des chamans.
Diane Dufresne.
Elle avait une façon de saluer, de prendre les applaudissements du public, ce que moi, je ne suis jamais capable de faire. Elle était vraiment... les bras tout ouverts, comme un oiseau. Elle pouvait avoir même 20 rappels. 20? Ah oui, oui, c'était incroyable. C'était inimaginable. Je n'ai jamais revu ça. Et elle se penchait comme un oiseau, je ne dirais pas noir, mais un oiseau avec des ailes qui l'entouraient, des ailes invisibles. Elle se penchait vraiment presque, la tête presque jusqu'à terre, et elle prenait ses applaudissements, elle revenait, elle les prenait, puis elle les prenait longtemps. Longtemps. Même j'en étais, des fois, j'en revenais pas. Et c'était comme une espèce de rituel.
Quelquefois, vous savez, quand vous connaissez ça, quand vous arrivez dans les micros, vous n'en pouvez plus, vous avez la tête comme ça, plein de soucis, plein d'ennuis. Et vous dites, je peux pas y aller, il faut y aller. Bon. Et que c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre voix, on entend. Et vous chantez, c'est vous et c'est pas vous. Vous connaissez ça, à ce moment-là. Et vous ressortez de scène, vous n'en pouvez plus, vous sortez, vous finissez vos émissions, vous êtes comme un chiffon, vous demandez comment ça a pu exister. On se coupe un doigt, on saigne, on rentre en scène. On joue, on saigne plus, on sort, ça saigne.
Après la consécration de Pantin, Barbara souhaite à nouveau se réinventer. Pendant près de 3 ans, elle planche sur une comédie musicale qu'elle imagine, avec Gérard Depardieu. Une aventure épique où les metteurs en scène et les collaborateurs se succèdent. Le 21 janvier 86, Lily Passion voit enfin le jour. Les médias sont au rendez-vous.
Midi première, spectacle, elle l'aime. Il tue, un spectacle sur le podium du Zénith à Paris, cela s'appelle Lily Passion. C'est encore le retour de la grande Barbara, Barbara qu'accompagne Gérard Depardieu. Écoutez.
Tango, tango, indigo, blue tango contre ta peau. C'est l'histoire d'un assassin blond. Qui rencontre Lily Passion, sans sens, dans une
même pas les yeux verts.
C'est un spectacle événement, c'est certain, déjà parce que beaucoup de mystères ont entouré le spectacle. Pas de journaliste aux répétitions, pas d'interview. Ce seul slogan, vous l'avez dit, elle chante, il tue. Et puis parce que à Paris, Barbara n'avait pas apparu sur scène depuis plus de 5 ans. C'était sous un chapiteau à Pantin.
J'entre dans la foule qui crie mon nom, Lily Passion, et j'entre dans la fosse au lion. C'est ma vie, c'est ma déraison. J'ai peur, mais j'avance quand même.
France Inter.
Si vous demandez à Gérard de raconter l'histoire, il va vous raconter une autre histoire. Ah bah ça, en me regardant, avec, parce qu'il a un tel souci de respecter les gens, ah bah il va vous raconter l'histoire, une autre histoire. Il va vous dire, c'est l'histoire d'une femme qui chante, qui a peur, qui ne veut pas entrer en scène, qui a, et donc elle exorcise sa peur en allant rejoindre. Enfin, c'est tout à fait une autre histoire. Hein. Et puis alors, quand il la raconte comme ça, il se tourne vers moi, il dit, c'est ça. Et, parce qu'il a un souci de ne pas trahir la pensée des autres. Il raconte une autre histoire, mais totalement une autre histoire. Mais je pense qu'on va jouer la même.
Ça fait 3 ans qu'elle m'en parle, ça fait 3 ans que je l'entends. Et ça fait 3 ans que ça m'intéresse. Parce que ce qu'elle raconte dans Lily, c'est qu'on ne peut pas changer les rayures du zèbre ou on ne peut pas changer le destin.
Déjà, ça se passe formidablement bien parce qu'on a les mêmes réactions. Aussi, oui. Oui, mais on a les mêmes. Parce que si on ne se lève pas les mêmes, ce sera très embêtant. C'est-à-dire, si on nous dit une chose, on se lève en même temps, en hurlant, on a exactement la même. Ce qui est très dur pour le metteur en scène. C'est quelqu'un qui s'écoutait, c'est lui qui me calme et qui me dit, bon, il écoute bien et il me retransmet, parce que moi, des fois, c'est vrai que j'ai quand même besoin d'un interprète, parce que le langage du metteur en scène, ça me paraît assez... je ne comprends pas toujours ce qu'ils me disent.
C'est un très joli projet qui se situera entre Cocteau et Fritz Lang, on ne sait pas, enfin, dans la...
Du spectacle total.
Oui, un spectacle total avec des tirades magnifiques.
Mais vous chanterez, Gérard?
Oh, j'en aurai deux, trois, mais ce n'est pas pour moi, c'est surtout Barbara qui chantera.
Gérard, quand il fait une lecture d'une chose... À partir du moment où il bute sur un mot ou sur un truc, il faut l'enlever, ça. Et quelquefois, il est tellement malin et tellement aussi délicat, parce que c'est une délicatesse, il bute exprès pour faire comprendre que le mot n'est pas bien. Hein? Alors il dit, oh, moi, j'y arrive pas. En fait, il y arrive très bien, c'est parce que bon. Alors on se dit, bon, oh là là, j'ai pas tout de suite compris tout ça, parce qu'il faut.
Faut s'apprivoiser. Acteurs,
oui.
Oh, je t'ai tellement cherché. Je t'ai tellement voulu. Je veux voir ton visage. Le visage de ta voix.
J'ai froid.
T'es toute pâle. Viens! On peut pas rester là, viens!
À la sortie du spectacle, il y avait beaucoup de gens très émus. Tout d'abord, Guy Béard et Marguerite Duras.
C'est un conte merveilleux. Et je crois que tout le public a été très touché.
Qu'est-ce que vous pensez de la rencontre de Barbara et de Depardieu?
C'est assez surprenant.
Marguerite Duras, comment avez-vous ressenti cette soirée?
Je trouve ça complètement génial. Enfin, ils sont tout à fait libres. Ça pourrait durer toute la nuit. Ils sont lâchés comme ça, comme ces deux génies. Enfin, on passe du rire à une extrême émotion. C'est admirable.
Ça n'est pas un tour de chant, ça n'est pas une pièce de théâtre, ça n'a pas une opérette.
Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom parce que c'est entièrement basé sur les comédiens. Tout est fait. Il n'y a pas d'affabulation véritable. Ça part dans tous les sens. C'est sublime, quoi, vraiment.
Vous étiez une admiratrice de Barbara depuis toujours?
Non. Non, mais maintenant, je suis devenue, alors, complètement.
Toi que j'ai souvent cherché à travers votre regard, si l'on s'était trouvé, qu'il ne soit pas trop tard. Pour le temps qu'il me reste à vivre, à mort en autre bateau ivre, pour pouvoir vivre toi et moi sur ton île aux mimosas. Oh, oh, toi que j'ai cherché pour le temps qu'il me reste, je voudrais vivre avec toi sur ton île aux mimosas.
C'était Barbara en noir et blanc
sur les ondes des radios francophones publiques. Cette émission est présentée par Anne Dorval
et signée Francis Legault.